voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
Comment vit la femme tunisienne d'aujourd'hui, la quadragénaire ordinaire, épouse et mère, qui tombe amoureuse d'un autre homme que son mari? On estime souvent que le statut de la femme en Tunisie est le plus enviable du monde arabe, mais le film Noura rêve révèle la difficile acceptation d'un amour adultère. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Noura rêve a fait la tournée des festivals et rapporté une moisson de prix. L'interprète principale En Sabri a également décroché moult prix d'interprétation. Elle sera notre invitée dans une vingtaine de minutes, accompagnée de la réalisatrice dont c'est le premier long métrage, coup d'essai, coup de maître, Inde Bougema. Elle affiche également de notre cinéma cette semaine Adults in the Room, le nouveau film coup de poing de Costa Gavras qui montre la violence de la potion amère imposée à la Grèce par les Européens en 2015. Et puis un autre grand film historique qui sort dans quelques jours, J'accuse de Roman Polanski.
Tous les cinémas du monde sur RFI avec Unifrance Film, l'actualité du cinéma français à l'international. www.unifrance.org.
Mais avant de retourner dans le temps, on voyage dans l'espace avec notre tour du monde de la planète cinéma, Elisabeth.
Oui, une triste nouvelle. La fille aux yeux d'or s'est éteinte ce dimanche. C'était bien sûr, vous l'avez reconnu, Sophie-Marie Laforêt. Elle avait 80 ans et derrière elle une carrière à la fois fascinante et déconcertante, partagée entre musique et cinéma.
Je n'accepterai pas le quart de ce qu'il accepte.
Mais ce qui m'amuse, c'est précisément de voir jusqu'où il ira.
Toi, tu dis des horreurs.
Ne le plains pas trop. Il ne pense qu'à l'argent.
Si tu le juges comme ça, pourquoi es-tu parti pour Rome avec lui?
Chut.
Tu t'ennuies seule avec moi?
Mamie, mais tu es folle.
Si c'était ça, j'aimerais mieux m'en aller tout de suite, tu sais.
Voilà la voix de Marie Laforêt, hein, c'était face à Maurice René dans Plein Soleil de René Clément, hein, Plein Soleil qui est un peu le moment de son irruption dans le monde du cinéma face à Alain Delon aussi, c'est son rôle en fait le plus remarquable et certainement son meilleur film. Alors suivront bien sûr quelques autres hein, comme La fille aux yeux d'or justement et ou encore Marie Chantal contre le docteur K de Claude Chabrol. Mais bon, plutôt que de valoriser son talent de comédienne qui était pourtant grand. Elle a délaissé Marie Laforêt le 7e art pour la chanson. C'est là d'ailleurs qu'elle a vraiment rencontré le succès. Elle qui chantait en français, mais aussi en espagnol, en portugais, en italien, même en arabe. Deux grands tubes qui resteront hein, comme les vendanges de l'amour, hein, cet incunable de la variété française, ou encore Viens sur la montagne.
Un coup de tonnerre dans le cinéma français.
Oui, c'était dimanche avec la publication d'une enquête de Mediapart dans laquelle la comédienne Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel quand elle était mineure. Tout a commencé sur le tournage des Diables où la toute jeune actrice, elle avait quand même 12 ans à l'époque, jouait une jeune fille autiste ayant une liaison incestueuse avec son frère. Donc Adèle Haenel, elle a gardé le silence pendant 17 ans. Et donc, on va écouter pourquoi elle a décidé justement de libérer sa parole, parce qu'elle a appris justement que Christophe Ruggia s'apprêtait, donc 17 ans plus tard, à retourner un film avec deux adolescents.
Je me suis dit, mais il ne peut pas refaire un film avec des adolescents, en fait. Je veux dire, je ne peux pas laisser faire ça aujourd'hui. Du coup, c'était un peu voilà comment ça s'est passé dernièrement, mais après c'est un processus très long parce que ça va de juste essayer de commencer par survivre, après avoir une colère qui passe peut-être un peu dans, qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même, ensuite commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème en fait, et de se dire pour soi-même effectivement c'est un problème en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, donc ça c'est un cheminement, je veux dire ça fait ça 17 ans hein, que c'est. Donc c'est un cheminement ultra long. Là on parle de la dernière année. Et puis il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça en fait aussi que je parle. C'est parce que en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi.
Voilà, Adèle Haenel, hein, sur le site de Mediapart. Hein, c'est un témoignage qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. C'est très impressionnant. L'enquête, très impressionnante aussi, est à lire sur le site de Mediapart. Alors, le cinéaste Christophe Ruggia a déclaré qu'il nie catégoriquement ces faits. Mais l'enquête, et au passage d'ailleurs, chapeau à la journaliste Marine Turchi, elle est très fouillée. Alors Sophie, est-ce que enfin la parole va se libérer dans le cinéma français? Peut-être. Affaire à suivre, hein, en tout cas.
En tout cas, après la publication de l'enquête, la SRF, la Société des réalisateurs de films, a radié Christophe Ruggia, ses membres. Et puis, il y a une enquête judiciaire qui a été...
Qui commence
à la demande du parquet, hein, parce qu'Adèle Haenel, elle, avait renoncé à porter plainte. Féminisme bis, Elisabeth, Meryl Streep crée un laboratoire pour les scénaristes de plus de 40 ans.
Oui, alors en fait, c'est une sorte de résidence d'écriture, Sophie, au nord de New York. Alors, elle sera largement financée par l'actrice, hein, mais aussi par des productrices, actrices, réalisatrices, scénaristes. Et donc, voilà, notez bien cette date, hein, le dépôt des candidatures se fera à partir de mai 2020.
Bon, faut être bilingue en anglais, je sais pas si j'ai...
Pas forcément.
Peut-être que j'essaierai. Clap de fin samedi dernier, pour les journées cinématographiques de Carthage, avec un palmarès très féminin et qui nous réjouit.
Mais oui, parce que le Tanit d'or, hein, la plus haute récompense des JCC, a été décerné à Noura Rêve de Hind Boudjema, votre invitée, Sophie, dans une vingtaine de minutes. Le Tanit d'argent va à un autre film qu'on aime beaucoup, hein, c'est le film de Mati Diop, Atlantique. Et le Tanit de bronze, lui, est décerné à Scales de la saoudienne Shahad Amin.
Sandy?
Tell me about it, Stud.
$405 000 pour une paire de pantalons.
Et même quelques dollars de plus. Mais lesquels, hein? C'est ceux que portait, vous l'avez compris, Olivia Newton-Jones dans Grease. Ils se sont envolés, Sophie, pour cette somme record la semaine dernière lors d'une vente aux enchères au profit d'un centre de lutte pour la bonne cause, hein, un centre de lutte contre le cancer fondé par l'actrice en Australie.
Enfin, on part au Canada pour un coup de projecteur sur le film qui portera les couleurs du pays pour la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Il s'agit d'Antigone de Sophie Deraspe, consacré meilleur film canadien de fiction au dernier TIFF, hein, le festival de Toronto cet automne. Le long métrage modernise la tragédie grecque de Sophocle, voilà, en situant l'intrigue à Montréal de nos jours. Une jeune fille, Antigone, en deuil d'un de ses frères tué lors d'une bavure policière, défie la justice pour sauver son autre frère. Pascal Guéricola, notre correspondante, a rencontré à Québec la réalisatrice et l'interprète principale de ce drame.
Nous ajournons pour une période de 15 minutes. La cour reprendra ses activités à huis clos.
Sinon, c'est une amende.
J'ai enfreint la loi, mais je recommencerai demain. Parce que mon cœur me dit d'aider mon frère.
Dans cette scène charnière d'Antigone, la jeune héroïne de 17 ans s'attire la sympathie des jeunes car elle ose défier les lois des hommes en suivant son cœur. Un message très contemporain aux yeux de la réalisatrice Sophie Deraspe qui s'apprête à aller à Hollywood pour faire la promotion de son film.
Est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut tenter de le fissurer, ce monde? Parce qu'il y a des choses qui sont injustes, inégales. Puis toutes ces questions-là, mais je suis contente de les amener dans le contexte américain. Il y a comme un vent contraire aussi, il y a un vent d'empathie où on a envie d'avoir un autre discours que celui du rejet. On a besoin aussi de discours d'inclusion, même d'admiration face à certaines figures telles celles d'Antigone.
Mademoiselle, laissez les procédures.
Je vais les vomir, OK, vos procédures! Votre honneur, vous êtes ridicule avec vos cérémonies!
Tu veux nous oublier en échange d'une petite vie qu'on me fait miroiter? Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu'on te jette?
Campé à Montréal, au cœur d'une famille d'origine kabyle, le récit autour d'Antigone donne la parole pour une rare fois à des personnages qui ne sont pas seulement québécois. Un geste qui séduit l'interprète de la jeune rebelle. Les parents de Naïma Ritchie, qui habitent au Québec, viennent de France et de Tunisie.
Un film qui a les trois personnages principaux, les trois premiers rôles, c'est des femmes d'origine kabyle. Je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement politique de présenter ça dans le paysage du cinéma québécois.
C'est vrai que le Québec, bien que sa situation sociale soit faite de gens de toute origine, dans la télé québécoise et le cinéma québécois, on a encore assez peu de films qui représentent cette diversité qui constitue cette société québécoise.
Le film vient de prendre l'affiche au Québec. On devrait savoir le 16 décembre s'il fera partie de la liste des 10 films en lice pour l'Oscar du film étranger. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Seize nouveaux longs métrages ont fait leur apparition dans les salles cette semaine, tentant de se faire une place. Alors parmi eux, la comédie romantique nostalgique de Nicolas Bedos, La Belle Époque, le superbe film d'animation de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps, et puis Elisabeth, le nouveau long métrage de Costa Gavras, c'est un thriller, une plongée dans les coulisses de la crise grecque en 2015. Alors c'est son 20e long métrage et ça s'appelle Adults in the Room, des adultes dans la pièce.
Αυτή είναι η δύναμή μας.
Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε.
You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you.
Voilà, un extrait du nouveau film de Costa Gavras, Adults in the Room. Alors comme vous le disiez, Sophie, c'est le récit de la crise entre la Grèce et l'Europe, inspiré par le livre homonyme de Yanis Varoufakis, qui a été le ministre grec des Finances entre janvier et juillet 2015. Alors même si on connaît bien sûr la fin de l'histoire et la capitulation de la Grèce face aux exigences de la Troïka européenne, c'est effectivement filmé comme un thriller. Costa Gavras retrace en deux heures passionnantes le combat, qui est de plus en plus solitaire, de Yanis Varoufakis. Il nous fait vivre de façon très très tendue les coulisses de ces tractations. C'est gratiné entre l'hypocrisie des Français, l'arrogance des Allemands, la lâcheté, le mépris, racisme à peine masqué. Donc peu à peu, Varoufakis va comprendre qu'il est seul contre tous. J'ai rencontré cette semaine Costa Gavras et je lui ai demandé donc comment il avait compris que ce sujet, qui est quand même a priori assez technique et aride, c'est quand même la renégociation de la dette grecque, pouvait donner lieu à un film formidable.
Non, au début, je me suis dit, je vais faire un mélodrame parce que la vie des Grecs, au début de la crise et encore par la suite, était vraiment inacceptable, était terrible, était vraiment un drame permanent. Et puis, je me suis aperçu très vite qu'il y avait dans cela l'Europe. Et comme l'Europe m'a toujours intéressé, et d'une manière même très, très forte, comme j'ai eu l'occasion d'aller aussi à l'Europe, souvent, en des commissions comme ça, avec des amis pour parler de la culture et tout cela, je me suis dit, voilà, il faut faire plutôt un film sur l'Europe et sur la crise grecque. Donc faire une tragédie, plutôt que faire un mélodrame sur les Grecs. Parce que l'intéressant dans tout cela, ce n'est pas le récit de Varoufakis, c'est qu'il avait enregistré. C'est ça qui est intéressant.
C'est les gens qu'il avait en face de lui. Et vous, vous montrez tout ça. Vous filmez les coulisses de ces tractations. Vous filmez l'hypocrisie des Français, leur double jeu, l'arrogance des Allemands. Et plus le film avance, plus on a le sentiment qu'il y a une vraie part de racisme dans cette histoire. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. Il y a une part de racisme. Et je l'ai raconté dans les qualifications des Grecs et de cette situation. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le président de l'Eurogroupe, il dit à un moment donné, à la presse, pas dans les réunions, à la presse, voilà un peuple qui a dépensé 327 milliards en femmes et en alcool, et maintenant il vient nous demander de l'aide. Voilà ces gens-là. À d'autres moments, à l'intérieur des réunions, il disait, bon, les Grecs, ils travaillent pas, c'est des fainéants, etc.
On peut dire que c'est un pays sacrifié ?
Oui, on a sacrifié d'une certaine manière un pays pour en faire un exemple.
Une jeunesse sacrifiée, surtout.
Une jeunesse, parce que une jeunesse, c'est aussi le pays, parce que tous ces jeunes qui sont partis diplômés, leur savoir-faire, l'utilisent pour les autres pays, pas pour leur pays pour lequel ils ont été préparés aussi. Voilà, c'est un appauvrissement à des très très longues dates. Voilà, tout cela, l'Eurogroupe le savait très très bien, mais il continuait quand même à faire cette jusqu'à maintenant, ça continue indirectement depuis un an, mais ça continue, cette espèce de tension permanente pour payer cette dette qui, en plus, après avoir vendu tout en Grèce, les aéroports, les plages, enfin toutes les richesses du pays, la dette n'a pas baissé beaucoup. Rien. Elle a baissé à peine. Donc ça continue.
Le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, votre héros, Costa Gavras, justement, vous le voyez comment ? Vous le voyez comme un personnage exceptionnel. Bon, c'est vrai, il a le charisme d'une rockstar, il est très vif, très intelligent, très malin. Alors qu'on sait que c'est un personnage qui a été un peu controversé, même dans ses propres rangs politiques.
Oui, il était très controversé par beaucoup de monde, mais je ne le vois pas comme héros. Vous avez dit héros, moi j'aime pas le mot. Je le vois comme un témoin. Il a eu la chance d'être à cet endroit-là, à un moment précis, et avoir une attitude de résistant et en même temps de témoin. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé.
Justement, est-ce que c'est un film de colère ?
C'est un film de colère, sans doute. C'est un film de colère pour la Grèce, mais aussi pour l'Europe. Parce que ma génération a profondément cru à l'Europe. On a vécu tellement de horreurs en Europe, des belles choses aussi depuis son existence, mais tout cela était fini, on va aller vers le positif. Et le positif ne vient toujours pas.
Aujourd'hui, Costa Gavras, vous vous sentez plutôt français, grec ou européen ?
Non, mais je me sens citoyen français plus avant tout. Je suis né grec, mais j'ai vu ici depuis plus de 60 ans. Européen aussi, mais vous savez, pour être européen, il faut être fier de l'Europe. Et là, on n'est pas fier. On ne respecte pas l'Europe. Pour les raisons que je viens de dire. Donc si on n'arrive pas à trouver une façon de respecter l'Europe, l'Europe va dépérir, à mon avis.
Cette année, on célèbre les 50 ans de Z. Comment vous vous sentez à l'idée d'avoir fait des films qui restent encore aussi vivants dans l'imaginaire collectif ?
Écoutez, c'est une surprise. C'est une surprise permanente pour moi, parce qu'il y a des gens encore qui m'approchent, parce qu'on a passé un peu partout Z à cause des 50 ans. Mais ils ont vu le Z, il est très bien toujours, ça m'a touché. Des jeunes qui n'étaient même pas nés à l'époque. Et qui sont nés 30 ans plus tard. Vous savez, les films, c'est comme tout, naissent, grandissent, et à un moment donné, disparaissent, se meurent. Et bien, il y a des films qui survivent, mais ça, personne ne peut le prévoir. Et surtout pas les auteurs du film. C'est les miracles du cinéma.
Merci beaucoup, Costa Gavras.
Merci beaucoup à vous.
Passionnant, Costa Gavras, que vous avez eu la chance de rencontrer, Elisabeth. Il se trouve qu'un autre immense cinéaste, octogénaire également, sort mercredi prochain son nouveau long-métrage, J'accuse. Il s'agit de Roman Polanski.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
J'accuse, c'est le récit de l'affaire Dreyfus qui divisa profondément pendant de longues années, hein,
les Français, décennies même.
Des décennies, ouais. Les Français au tout début du siècle dernier, révélant l'antisémitisme de la société française. Ce film est également une sorte de thriller, en tout cas une enquête policière, celle que mena le colonel Picard, ici c'est Jean Dujardin, lorsqu'il comprit que le document incriminant Alfred Dreyfus, militaire convaincu d'espionner pour le compte de l'ennemi allemand, que ce document donc était un faux. Picard, pourtant a priori antisémite, bon teint on va dire, hein, comme la plupart des gens, hein, des Français à l'époque.
Banalement antisémite, voilà. Comme les Français l'étaient à l'époque.
Lui, il était aussi convaincu de la culpabilité de Dreyfus, et bien il n'aura de cesse de faire éclater la vérité, notamment pour éviter que le scandale n'ébranle l'armée française. Alors, c'est un grand film historique que livre Roman Polanski, c'est très classique dans la mise en scène, mais c'est également très efficace, très pédagogique, on ne s'ennuie pas une seconde, hein, porté par de grands acteurs. On a cité Jean Dujardin, il faudrait aussi citer Louis Garrel, hein, dans le rôle de Dreyfus, ou Grégory Gadebois qui joue un peu le méchant de l'affaire. Alors, on sait que la question de l'antisémitisme, évidemment, elle taraude Polanski, hein, lui qui échappa enfant au camp de la mort, qui s'évada du ghetto de Cracovie. Donc, il y a évidemment cette lecture évidente, hein, de ce film comme un rappel, une piqûre de rappel, et peut-être aussi un signal d'alarme. Après, dans ce film J'accuse, il y a une autre lecture, beaucoup plus personnelle, qui a trait à la vie même, postérieure de Polanski, hein, comme une sorte de plaidoyer pro domo. Alors, il faut rappeler que Polanski est toujours sous le coup d'une accusation de viol sur mineur de 13 ans aux États-Unis dans les années 70. Or, le film J'accuse montre une erreur judiciaire, un homme jugé coupable parce que juif. Alors, dans quelle mesure Polanski parle un effet miroir dans ce film? C'est un peu le vertige qui peut nous saisir, Elisabeth, quand on voit J'accuse, mais en tout cas, c'est quand même une bonne raison aussi d'aller voir ce film. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Une nouveauté, la musique soul de Michael Kiwanuka, You Ain't the Problem. On se retrouve après avec mes invités Anne Sabri et Ndé Boudjema pour Loura.
Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Alors, le film du jour, c'est une histoire comme il y en a tant. Le désamour et la lassitude d'une femme, Noura, encore jeune, mariée à un petit escroc, Jamel, avec qui elle a eu 3 enfants. Et Noura, qui est tombée amoureuse d'un autre homme, l'Assad. Le divorce doit être prononcé dans quelques jours, à l'insu de Jamel, encore en prison. Mais en attendant, Noura et l'Assad prennent un risque, car en Tunisie, la loi punit sévèrement l'adultère. Hind Boudjema, bonjour.
Bonjour.
Hind Sabri, bonjour.
Bonjour.
Hind Boudjema, Noura rêve est votre premier long-métrage de fiction, et la Noura du titre est interprétée par Anne Sabri. Anne Sabri, vous êtes tunisienne, mais égyptienne d'adoption, on peut dire ça?
D'adoption, oui.
En tout cas, vous y vivez.
Oui, je vis au Caire, oui, oui.
Il paraît qu'on vous y surnomme la Julia Roberts du Nil.
Écoutez, ça ne peut que me rendre très heureuse. J'aime beaucoup Julia Roberts, c'est un joli nom, je trouve.
Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle de Noura, grâce auquel vous avez décroché le prix de la meilleure actrice au Festival égyptien d'El Gouna?
Écoutez, ce qui m'a poussée d'abord, c'est ma rencontre humaine avec Hind Boudjema. C'est une femme, une compatriote que je comprends, que je ressens. On est de la même génération, un peu la même culture, la même veine, comme on dit. Et puis, on est deux femmes. Mais je pense que c'est pas un hasard que ce film soit réalisé par une femme, parce que c'est un film qui parle de l'intime d'une femme, les questionnements intimes d'une femme qui sont quand même très très difficilement qu'on capte très difficilement par voie verbale. Il faut vraiment ressentir les choses, et je pense que c'est ce qui m'a poussée à faire ce film, c'est ce côté très très intime du film.
Noura, c'est une femme ordinaire et pas forcément glamour.
Pas du tout, même.
Même si elle soigne sa mise, elle est quand même coquette, mais vous la voyez comme une héroïne?
Pas du tout, justement. Ou en tout cas, c'est une femme qui est héroïne de par son ordinarité. C'est-à-dire que je la vois comme une femme qui est tellement, qu'on voit tellement dans la rue qu'on ne remarque pas. Il y en a tellement des Noura autour de nous. Il y a même du Noura en moi, en Inde, en tout le monde. Et en même temps, ce qui m'a séduit dans ce personnage, c'est justement son côté ordinaire et même ses défauts majeurs qui lui font même à elle mal. C'est-à-dire qu'elle ment dans le film. Elle peut être fourbe, elle peut être lâche. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est cette humanité chez Noura qui la rend tellement ordinaire et en même temps, comme nous tous, tellement extraordinaire.
Et vous, Inde Boujema, pourquoi vous avez écrit cette histoire? C'est une histoire effectivement universelle, parce que je le disais, c'est une histoire comme on y en a tant, mais en même temps, elle se passe en Tunisie, donc où il y a quand même cette loi qui continue de criminaliser l'adultère.
Pénaliser.
Oui, alors pourquoi donc c'est une double question. Pourquoi j'ai écrit? Parce que ça me touche et je crois que je suis pas partie du tout sur une intention de faire un film sur une loi, pas du tout. La loi a aidé dramaturgiquement mon trio, puisque c'est quand même ce qui m'intéresse le plus, c'est une femme d'environ 40 ans, c'est son droit au désir, de vouloir changer de vie, et la situation dans laquelle elle se retrouve à la sortie de son mari en prison, une gestion qu'elle va devoir faire, et qu'effectivement, ce qui change au niveau de la gestion, c'est qu'il y a quand même une loi qui pèse, c'est-à-dire que l'homme et la femme, hein, c'est pas une loi qui vise uniquement la femme, qu'on soit clair, donc peuvent effectivement aller en prison. S'ils sont attrapés en flagrant délit d'adultère. Alors, ce qui était intéressant, c'est que du coup, je me suis aussi passionnée et intéressée à l'adultère dans le monde entier. Et je me suis donc rendu compte que, par exemple, dans 21 États aux États-Unis aujourd'hui, c'était aussi pénal, donc au même titre qu'en Tunisie, dans l'État de New York. Donc cet adultère a été dépénalisé en France en 75, ce qui est quand même, somme toute, assez récent, hein, c'est pas très, très, très vieux. Et il reste l'adultère une faute civile, donc qu'on peut prendre en compte dans le divorce aujourd'hui en France.
Je donne pour la garde des enfants, peut-être.
Non, pas du tout. Ça peut être pas que pour la garde des enfants, mais donc ça reste une décision arbitraire du juge. Est-ce qu'on prend en faute cet adultère parce qu'en plus il y a plusieurs types d'adultère. Donc, c'est-à-dire que ce problème finalement. Qui finalement ne regarde que trois personnes généralement. Hein. L'adultère, ça regarde que trois personnes, les personnes qui sont mariées et les amants. Et donc c'est une histoire finalement de jalousie. C'est une histoire très personnelle qui devient exposée à la loi. Et moi, je trouve ça anormal. Alors qu'elle soit encore donc pénale ou même faute civile, pour moi, c'est inadmissible que on puisse entrer dans la vie si privée de trois personnes qui, au finalement, il y en a un qui est blessé et qui est donc dans son ego et qui peut détester les deux autres, et l'autre qui tombe amoureux et puis il tombe amoureux. Et donc là-dessus, nous voilà donc à partir d'une fameuse ligne qui se trouvait dans les 10 commandements, tu ne commettras pas l'adultère. Nous voilà sur la terre entière sur un sujet qui est profondément de l'ordre de la liberté de l'intime. Ou criminalisé, ou pénalisé, ou de toute façon jugé. Et s'il n'y a pas le cadre de la loi, il y a de toute façon le regard et l'inconscient collectif masculin sur nous, les femmes.
Alors je vous propose d'écouter, de commenter un extrait de Noura Rêve, votre premier long métrage de fiction, Inde Boujema. C'est tout début du film, je crois même que c'est dans la première séquence. Hein, Noura et son amant, l'Assad, ont rendez-vous dans une association.
Salam. اخي كلثوم شو هني
تحت على ساق عمت كبيره اني انا في بلاصتها شنو اسمك
نورا قرقول
سلام
سلام
ذوما القضايا نتاع جمال اللي طلبتهم علينا مدام كلثوم
يا وخرر ما حبس هذا سرقة زطلة تحايل شو قاعدك معاه
سامحني وقتاش تعينت الجلسة
4 ايام اخرين
قتال اليوم مش
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Inde Boujema, parce qu'on n'a pas l'image, mais qu'est-ce qui se passe dans cette séquence de Noura Rêve?
Mais en fait, donc le mari est encore en prison et elle et son amoureux décident d'aller se faire aider dans une association qui permet d'avoir des avocats pour la demande de divorce. Donc quand ils arrivent à l'association, ils ont déjà demandé le divorce et ils viennent connaître la date exacte. Donc on leur annonce qu'il ne reste plus que 4 jours. Donc la dame de l'association est fort étonnée par le dossier de ce mari qui est quand même assez délinquant et très délinquant même puisqu'il a passé sa vie à aller en prison.
Et elle lui demande, mais comment est-ce que tu as pu rester avec un homme pareil? Donc, c'est une question, somme toute, qu'on peut comprendre, parce qu'effectivement, elle raconte beaucoup de choses. Ce qu'elle raconte surtout, c'est pourquoi les femmes qui sont battues restent avec les hommes battus? Pourquoi est-ce que les femmes qui sont avec des hommes violents restent avec ces hommes violents? Ça pose la question à toutes les femmes, comme pourquoi est-ce qu'on reste autant d'années par peur, par manque de courage, alors que la loi autorise, parce qu'en tout cas en Tunisie elle l'autorise, il suffit qu'elle fasse un pas, qu'elle aille au commissariat dire mon mari me frappe, et il est jeté en prison. Donc la loi même l'aide, mais quels sont les empêchements et psychologiques et de l'entourage et du jugement qui arrive à ce qu'on puisse rester avec quelqu'un comme ça aussi longtemps.
Et de la société, parce qu'à un moment, Anne Sabri, votre personnage, Noura, se rebiffe face à cette cette dame dans l'association, parce que cette personne lui fait la morale, lui dit comment tu viens avec ton amant, j'espère que tu l'as pas présenté aux enfants, et Noura, elle se rebiffe quand même.
Oui, parce que justement, comme disait Anne tout à l'heure, c'est des questions de l'ordre du vraiment très privé, et que la société s'instaure en juge ou en gardienne des valeurs. Et c'est vrai que même le spectateur peut être pris au jeu dans ce film, justement, parce que ce qui est intéressant dans l'approche de Hind, c'est qu'elle a fait que tous les personnages sont presque impossibles à juger. C'est-à-dire il est impossible de se faire une espèce d'idée claire des motifs ou des motivations de chacun. Et donc ça, c'est très important, je pense, dans une société qui apprend la liberté, d'expression, mais aussi la liberté de l'autre. C'est très important d'installer ou d'initier un dialogue sur où s'arrête ma liberté, où elle commence, où s'arrête ma liberté de juger les autres, où elle commence. C'est un débat qui est vraiment très utile, je pense, en Tunisie aujourd'hui, mais dans le monde entier. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui reste très tunisienne, qui a aussi une envergure universelle, je pense. Mais la société qui s'attend à ce que la femme soit mère d'abord, quand elle est mère, qu'elle soit maman d'abord, qu'elle soit gardienne du temple dans le sens où elle ne peut pas changer de vie, elle ne peut pas, il faut qu'elle soit la continuité de la société, de la famille, ce symbole toujours debout, alors que l'homme peut partir quand il veut, aimer qui il veut, sans jugement.
Mais moi, est-ce que je peux compléter ce que dit Hind? Il y a quelque chose dans cette question quand elle lui dit mais comment est-ce que tes enfants sont au courant pour cet amant? Il faut pas perturber les enfants, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'interférer et d'empêcher l'amour. Je crois que cette femme arrive à un âge où elle a juste le droit d'aimer. Et cet amour, au-delà d'un certain âge, est presque interdit. Quand on tourne la face B d'un disque à 40 ans, parce qu'il paraît que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on nous a raconté. Moi, mon maman me l'a déjà sorti, donc je sais pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé des faces B très intéressantes au passage, des fois dans des disques. Mais à un moment donné, on doit être juste maman. Et donc, on doit être juste maman et grand-mère après, de préférence, c'est encore mieux. Comme ça, on est gardé.
C'est la continuité, justement. Continue.
Et alors, on a cet énorme tabou, donc, qui va jusqu'à se juger entre femmes, quoi. Entre femmes, comme si on n'avait plus le droit d'aimer à partir d'un certain âge, comme si c'était malsain et c'est trop sexualiser la personne que d'avoir un amant, alors qu'on peut se dire que juste il y a de l'amour. Et donc, il y a toujours cette chose que l'on rencontre partout. Dans tous les pays, des actrices américaines qui ont du mal, après un certain âge, à trouver des rôles, ça part de ça, à des choix de femmes à avoir des amours après 40 ans. C'est toujours un petit regard, « Ah ouais, mais elle, ça va pas être comme le regard que l'on porte sur l'homme, et ça concerne toutes les femmes. Toutes les femmes, cette liberté. » Moi, je vais parler de quelque chose, peut-être que c'est un petit peu... Je dis, par exemple, votre première dame. Moi, je trouve très bien, parce qu'elle assume...
Brigitte Macron.
Oui, absolument. Elle assume complètement ce qu'elle est, ce qu'elle a envie d'être. Elle s'habille comme elle a envie, elle met des minis, elle met des trucs. Et regardez, même une première dame est soumise au machisme des hommes. Parce que quoi? Parce qu'elle n'a pas 20 ans? Parce qu'elle ne correspond pas à un modèle parfait? Ou quoi? Elle n'a pas le droit? C'est terrible. Ça part de la petite femme inconnue à une première dame. C'est-à-dire que c'est généralisé, ce jugement. ce non-droit à vivre comme on a envie de vivre, autre chose qu'une maman quand on est que bobonne à la maison, quoi.
C'est ce que j'avais envie de dire. In Boujema, votre film Noura Rêve traite plus généralement effectivement des rapports hommes-femmes. En témoigne cet extrait. Noura rencontre l'Assad, son amant, son amoureux, dans un café.
مرحبا بك
كي العادة رجعت له مش باهي لك راه
ما كنت تتكيف مش كان نرجعوا للجمعية خير
خبر بيش باش تزيدني انا الجمعية كان لقيت حل انت من البارح مش خير
Alors, and, Boujema, l'Assad commence par écraser la cigarette que s'allume Noura, puis il va lui faire des reproches, il va lui faire une véritable crise de jalousie, quoi. En apprenant que Jamel, le mari, il est sorti de prison beaucoup plus tôt, en fait, il les a pris par surprise. Et on a le sentiment, avec cette scène, qu'on se dit qu'on comprend que si Noura quitte son mari pour cet homme, le même type, enfin, j'ai envie de dire, soit d'emprise, soit de rapport, pourrait se reproduire, mais avec un autre homme. Je vous vois acquiescer, Anne Sabri.
Mais oui, parce que d'ailleurs, dans le film, c'est très très clair, même visuellement. À la fin du film, dans la séquence du commissariat, on va pas en dire trop.
On va pas tout divulgâcher,
mais elle est prise entre plusieurs hommes, et on a l'impression que son destin est pris par ces hommes, justement, est pris en main par des hommes. Et c'est une façon aussi d'expliquer que les choix d'une femme, le destin d'une femme n'est jamais vraiment pris par la femme. Il est pris par une espèce de comité masculin en majorité. Donc c'est vrai que même si dans un autre scénario, dans un autre film, elle s'en va avec ce monsieur et qu'elle divorce, est-ce que ce monsieur accepterait de vivre avec une femme libre? Est-ce qu'il accepterait que ce qui a été fait avec lui se fasse avec un autre ou pas? Donc, c'est une question à laquelle j'ai une petite réponse dans ma tête, mais bon.
Alors, moi, je vois un petit peu les choses sur l'angle, surtout dans cette... Parce que j'aime traiter mes personnages de manière assez égale, au final. Moi, je vois deux... Ils sont amoureux tous les deux d'elle. D'accord. Et là aussi, on va toucher à l'universel, parce qu'il y a une confusion dans les couples de la planète entière entre l'amour et la possession de l'autre. Mmh. L'autre devient son objet, et c'est valable pour les femmes. Mon mari, d'ailleurs mon mari, mon homme, moi, ma chose, à moi. Donc, il y a ce grand questionnement où se situe l'amour et où se situe cette possession et donc l'ego. Donc, elle est partagée entre deux hommes qui sont somme toute différents, de toute façon, parce qu'ils ont une jalousie qui est légitime. Un est trahi, donc il est trahi et on lui a pris sa chose, parce que c'est sa femme de toute façon, son objet. Et l'autre, qui est tombé amoureux, ça devient aussi, il y a aussi cet ordre de possession. Puisqu'on est ensemble, on se possède l'un d'autre. On va nulle part ensemble. Beaucoup de couples fonctionnent malheureusement, c'est leur libre choix, mais fonctionnent comme ça, dans l'interdiction que l'autre s'éloigne un peu trop. Et donc, lui arrive dans ce café, et sa première préoccupation, effectivement, c'est la jalousie. Est-ce que l'autre l'a touché? Si on ramène ce sentiment à l'ultra personnel, chacun de nous, si on est amoureux de quelqu'un, a-t-on vraiment, vraiment, qu'on soit homme ou femme, a-t-on vraiment envie d'entendre qu'il touche ou qu'il a d'autres relations sexuelles ailleurs? Ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Et donc c'est de ça que je voulais jouer. Lui, il a mal. Il a mal parce qu'il est très amoureux d'elle. Donc en dehors du fait qu'il y a ce côté qui est effectivement d'une culture machiste, on est bien d'accord, il y a qu'elle part d'un sentiment de jalousie et de « Ah, ça me fait mal, il y a quelqu'un d'autre qui va la toucher, quoi ».
Vous parlez d'une culture machiste, néanmoins, vous disiez que c'est vrai que c'est un film très universel, dans lequel tout le monde peut se reconnaître et en même temps très tunisien. On a souvent, de ce côté-ci de la Méditerranée, l'image de la Tunisie, en tout cas de la femme tunisienne, comme la femme qui a le statut le plus libéral du monde arabe.
C'est vrai.
Et c'est vrai. Mmh. Est-ce que, néanmoins, vous attendez avec impatience ces réactions déjà du public à ce film, toutes les deux, du public tunisien ? Je ne sais pas s'il est déjà sorti en Tunisie.
Non, alors il n'est pas encore sorti en Tunisie. Nous sommes en compétition aux Journées cinématographiques de Carthage. Oui, nous sommes extrêmement impatientes de discuter, de voir, de rencontrer notre public.
Donc, qui plus est, la Tunisie qui a changé de président. Donc, on va citer le nouveau président élu, Kais Saied, ultra-conservateur, qui a notamment des projets, alors on verra s'il les mettra, qu'il les mettra à exécution, mais notamment, je crois, de renforcer l'inégalité homme-femme dans l'héritage, non?
Non, on va essayer. Alors bon, on va quand même un petit peu. Écoutez, moi, je pense que c'est, je vais être un petit peu simpliste peut-être, mais je crois qu'on s'est retrouvés un petit peu, nous, votants, dans le cas où, je crois que vous avez connu ça en 2002, vous avez dû voter Chirac contre Le Pen. Et je pense que vous avez même connu ça avec M. Macron, à un moment donné.
Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour. Donc, quelquefois, les électeurs ont senti qu'ils n'avaient pas un choix, qu'ils n'avaient pas vraiment le choix.
Voilà. Et est-ce que ça s'est fait par les abstentions, parce qu'on sait...
Un vote par défaut.
Voilà. Non, mais d'abord, la fin, pour arriver à ces deux candidates, d'abord, il y a eu trop d'abstentions ou bien trop de propositions qui ont trop éclaté les voix. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas faire d'analyse politique là-dessus. Toujours est-il que nous sommes... Vous vous êtes retrouvés devant deux candidats qui, forcément, ne vous plaisaient pas. Et nous, on a fait la même chose en Tunisie. Bon. Ensuite, que se passe-t-il ? Il se passe que, quand même, nous avions un candidat en prison. Alors qu'il soit coupable ou pas, on n'en sait rien parce qu'il y avait une justice qui faisait son travail, mais c'est quand même un petit peu dur de voter pour quelqu'un dont on aurait pensé qu'il continuerait la corruption, parce que c'est dans le film aussi.
Nous sommes dans
un état complètement corrompu à tous les points de vue. Et donc la plus grosse lutte maintenant de la Tunisie, maintenant que nous avons acquis les libertés, la liberté en tout cas d'expression, c'est la corruption. Or, nous arrivons avec un monsieur, effectivement, qui est conservateur et qui a un programme économique de gauche. Donc, il a quand même rassemblé bizarrement les gens et de gauche et les conservateurs. Mais il est professeur de droit et sa femme est juge. Et aucun dossier de corruption. En fait, la Tunisie, par ce vote, a rejeté la corruption, tout simplement. Elles sont retrouvées coincées avec deux candidats qui leur plaisaient pas de manière générale. Mais ils ont fait un vote en se disant, si on a 2% de chance de créer un état de droit, on va vers cette chance-là. C'est ça qui s'est passé en Tunisie.
Effectivement, vous le disiez, c'est vrai que dans Nora Rêve, on la voit, cette corruption.
Oui.
En tout cas, ces connexions entre la mafia et la police.
Elle existe partout. Hein. Elle n'est pas qu'en Tunisie. Hein. Elle existe partout. Bon, c'est vrai qu'en Tunisie, elle s'est démocratisée, la corruption, si on peut dire ça comme ça. Elle est entrée partout. S'est faufilée un peu partout. Il y avait une corruption horizontale avant et maintenant elle est vraiment verticale, du haut vers le bas, toutes les échelles est corrompue. C'est vrai que ce n'était pas un vote, c'était un référendum contre la corruption de toutes sortes, hein. On ne parle pas que de corruption financière, hein. La corruption de toutes sortes. Et je pense que les Tunisiens, nous Tunisiens, nous avons le droit de déclarer haut et fort qu'on veut un état de droit et qu'on veut vivre dans un état de droit. Après, conservateur ou pas, il y a une société civile en Tunisie qui est très forte.
Et je fais partie, par exemple, des gens qui se battront pour l'abolition des lois telles que l'adultère ou l'homosexualité.
Je ne pense pas qu'il y ait un réel danger sur les libertés publiques en Tunisie.
C'est ça, la société civile tunisienne a montré une formidable capacité de résilience et de résistance.
Elle continuera. Et puis bon, on connaît les politiques, ils promettent beaucoup de choses et après, entre ce qui est promis et dit, il a quand même dit qu'il ne toucherait pas aux libertés individuelles. Il l'a dit officiellement à la télé, il a dit d'autres choses aussi. Donc maintenant, on va devoir le vivre, ce président, et vivre surtout le Parlement, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un régime parlementaire à l'allemande. C'est comme nous cherchons maintenant une Angela Merkel qui va diriger le pays, ce n'est pas lui qui va le diriger.
Ce serait bien que ce soit une femme, d'ailleurs.
Oui, ce serait très, très bien. Moi, ça, je serais très contente.
C'est imaginable, vous pensez?
Oui, bien entendu. C'est imaginable, en Tunisie, d'avoir une femme. Mais maintenant, les élections ayant eu lieu, et disons que les islamistes sont quand même passés en grande majorité, donc je ne sais pas trop. Mais bon, même avec eux, ils ont des femmes et ils peuvent très bien les proposer.
C'est ça la démocratie. Non, mais c'est bien, tout cet apprentissage, c'est bien.
C'est ça que je dis, on fait des erreurs et on apprend, mais on est en train, on est le seul pays arabe, et je le dis avec fierté, en train, on est démocratique, on a eu un débat de deux présidents qui a été certainement calqué sur la mode candidats. Française, sur, le, sur ce que vous avez aussi fait, et c'est très bien, et c'était énorme dans le monde arabe. Et vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les vidéos humoristiques dans le monde arabe où ils se remettent, eux, en cause, les jeunes, en disant oh, « Mais les Tunisiens, pourquoi est-ce que vous nous avez dit ça? Vous auriez dû faire ça en cachette! Vous vous rendez compte de ce que vous nous faites? Nous, autres pays arabes, vous nous donnez une leçon de démocratie, c'est énorme. »
Donc la Tunisie montre le chemin.
Oui.
Le film, vous disiez, Noura Rêve, donc sélectionné aux Journées cinématographiques de Carthage. Est-ce qu'il y aura une sortie salle ou...
Ouais. Oui, alors nous sortons déjà en salle, donc le 13 novembre, en France. Nous sortons en Tunisie ensuite, le 27 novembre. Nous sortons en Égypte, nous sortons au Maroc. Nous sortons en Belgique, nous sortons probablement en Espagne. Donc
c'est
ça
un
va.
Débat qui peut agiter au-delà de la Tunisie, même le monde maghrébin en général.
Absolument.
Donc ça aussi, ça doit être passionnant.
C'est passionnant parce que c'est avec l'argumentaire et les échanges qu'on arrive à faire réfléchir sur des choses.
J'étais en interview avec une journaliste marocaine tout à l'heure et elle me disait, vous savez, c'est quand même incroyable que ce genre de film-là sorte toujours de la Tunisie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, quoi. C'était vraiment flatteur pour la Tunisie. Elle disait, les Marocains, donc on est très proches culturellement, c'est un peu le même peuple, hein. Mais elle me disait, c'est toujours la Tunisie qui allume un peu
Qui a un peu l'aiguillon.
Oui, et c'est magnifique pour
tout. C'est la Tunisie qui a mis le débat le plus tabou au monde, qui est celui de l'héritage en islam, et qui concerne pas que le monde arabe, tout le monde musulman. C'est quand même nous qui avons fait un rapport de Colib en demandant l'égalité dans l'héritage. C'est énorme.
Et le film, il a été donc projeté au festival égyptien El Gouna. Mm-hmm. C'est pareil, donc vous avez vu un peu les retours au moins de la presse égyptienne.
Oui, c'était l'avant-première arabe, justement. Donc c'était le premier public arabe à voir le film en terre arabe. Et bon, c'est pas le public tunisien, c'est un public qui est quand même plus conservateur, moins habitué à des sujets aussi qui peuvent déranger comme ça l'establishment, comme on dit, des choses. Et c'est vrai qu'ils ont été un peu décontenancé, c'est-à-dire que il y avait un moment de flottement comme ça à la fin du film, mais j'ai eu une phrase d'une spectatrice égyptienne qui résume tout. Elle m'a dit, j'aurais aimé vous détester dans le film, mais je n'arrive pas à vous juger. Et c'est exactement ce qu'on aime. Voilà, c'est pour ça qu'on fait du cinéma. C'est pour ça qu'on arrête de se juger les uns les autres.
Et c'est pour ça que j'ai écrit le film de cette manière-là, en revenant. Parce que il y avait, connaissant la problématique et le regard qu'on peut avoir sur la femme adultère, il fallait absolument pas que mon héroïne, soit jugée pour adultère. Donc c'est en travaillant mes personnages masculins et en ne leur trouvant pas non plus, à personne on peut trouver des excuses. Et c'est ça, c'était ça. C'était pour moi la manière d'exposer ce problème qui est l'adultère et la pénalisation de l'adultère.
Anne Sabri Inde Bougema, merci. Je rappelle le titre de ce film très fort, en salle en France mercredi prochain, Noura Rêve, et donc en Tunisie le 27 novembre. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale en compagnie de Ladj Lee, l'auteur du film Choc de Cannes, le film français en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger, Les Misérables. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde.
Musique du monde.